Bon, alors pour... Est-ce que j'ai... Vous êtes plus nombreux que la dernière fois ou non? Qu'est-ce qui n'était pas là la dernière fois? Faisons la question comme ça. Alors, et qu'est-ce qui fait partie du cours de courtine aussi? Donc il y a vous, il y a quand même deux, trois, quatre, donc vous êtes persistés, c'est bien, hein, je suis ravi. Et donc, voilà, donc courtine m'a dit qu'il ne pouvait pas déplacer la chose. J'étais pas du tout conscient du problème, sinon on aurait pu s'arranger pour faire des blocs de 3 heures, alternant, je ne sais pas. Bon, mais là ça ne va pas, donc sentez-vous libre de partir quand vous avez besoin de partir. Il n'y a aucun problème. Bon, alors, la semaine dernière, je n'ai parlé de rien, ce qui est une consolation pour ceux qui n'y ont pas assisté, et un facteur d'angoisse pour ceux qui y ont assisté. Je vous ai parlé essentiellement de ce qu'on peut appeler l'état des sources, matériellement parlant. Je vous ai expliqué ce que c'était que des fragments et témoignages, je vous ai... dit un tout petit peu, donner quelques indications sur les systèmes de référence, donc des choses plutôt formelles qui sont faciles à, sur lesquelles il est facile de vous renseigner. Voilà, et puis je vous ai dit quelques mots d'encouragement sur la pratique du séminaire et sur le fait que j'espérais que, en dépit d'une difficulté réel, qui tient, comme je l'ai dit, à la fois à l'étrangeté un peu de la matière et le fait qu'il n'y a pas vraiment de l'ouvrage pas français, soit d'utilisation commode. J'espère que ce sera un vrai séminaire avec une participation active et des questions qui nous feront aller plus loin, ce qui dépend naturellement aussi pas seulement de vous, mais de moi, mais aussi de vous. Voilà. Alors, j'ai réfléchi un tout petit peu à la façon dont... ce que je voulais faire, ce que je n'avais pas vraiment fait la dernière fois, en attendant de voir combien vous étiez. Et ce que donc je vous ai dit aussi que je ne souhaitais pas revenir sur des choses que j'ai déjà fait par le passé, mais néanmoins, je pense que ce n'est pas inutile, ce serait un bon point de départ, que je reparte d'un certain nombre de mes préoccupations pour essayer de vous expliquer mieux comment je voudrais progresser et aller au-delà. Et donc, je vais aujourd'hui consacrer cette séance à vous dire un tout petit peu quel était le sens de mon point de vue, ce que j'ai voulu faire dans ce petit livre que je vous ai nommé la semaine dernière, que vous pouvez consulter si vous voulez. Alors, je vous ai apporté deux autres livres. Le livre dont... Vous disiez, qu'est-ce qui me disait qu'il n'arrivait pas à le trouver en bibliothèque, le livre de Kirk Raven-Schofield?
Qu'il est
qu'en
français.
Qu'il est qu'en français. Ouais. Bon, je vous fais pas repasser l'exemplaire anglais aussi, pour que vous le regardiez. Je n'ai pas eu encore eu le temps de le commander, etc. Mais ça, c'est un bouquin auquel vous pouvez vous référer. Et puis, je vous passe aussi un livre donc, qui est le Cambridge Companion of Early Greek Philosophy, qui est relativement récent. Donc, comme son nom l'indique, c'est un livre d'introduction à la pensée post-socratique. Et vous y trouvez d'abord des informations, et puis une douzaine de chapitres, 16 chapitres exactement, qui sont abordables et qui sont des présentations qui vous permettent d'exercer votre anglais, qui est toujours nécessaire. Voilà, donc je vous parle un tout petit peu de cette introduction à la philosophie présocratique que j'ai parlé l'année dernière. Et dans ce livre, vous avez vu qu'il y a des guillemets à, vous verrez qu'il y a des guillemets à philosophie présocratique, c'est-à-dire c'est une introduction non pas aux philosophes présocratiques, mais c'est une introduction au concept de philosophie présocratique. C'est une introduction, donc vous ne trouverez pas là d'informations réellement sur les présocratiques. Pour ça, vous pouvez vous référer plutôt à l'ouvrage de Long pour une première initiation dans des histoires de la philosophie, bon. Ou aux différents chapitres du Kirk Raven, comme vous voyez, c'est en anglais plutôt qu'en français. Quels sont ceux d'entre vous qui lisent l'allemand? Alors, il y a une bonne un ouvrage que vous pouvez regarder aussi, qui est qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Christoph Rapp, qui s'appelle Forza Kratica, simplement, qui est aussi relativement récent, et qui, si vous voulez avoir un exposé des doctrines, disons, est assez utile et bien fait. Il y en a d'autres, je peux vous recommander. Voilà, en tous les cas, dans mon petit bouquin, vous ne trouverez pas ça. Ce que vous trouverez, c'est uniquement une réflexion qu'on peut appeler une réflexion de second ordre, de second niveau, sur l'idée même, la notion même de le philosophe présocratique. Donc c'est une réflexion d'abord problématique qui part de la dénomination philosophe présocratique. Et cette dénomination, comme toutes les dénominations, engage une certaine représentation de l'objet que l'on traite. C'est pas quand on nomme une époque de la philosophie, on décrit un certain type de philosophie, on prend en même temps, c'est pas simplement descriptif, objectif, c'est en même temps, on dit quelque chose sur la manière dont on conçoit l'objet dont on traite. Et donc on parle très couramment de philosophie présocratique, et au fond ce que je me suis demandé dans ce livre, c'est qu'est-ce que ça signifie que l'on parle à propos de ces individus de philosophie, et pourquoi les caractérise-t-on comme étant présocratiques. Alors, une bonne partie du livre part du fait que tourne autour des deux éléments, si vous voulez, dont est fait la dénomination philosophe présocratique, donc d'une part philosophe, philosophie, si vous voulez, et d'autre part, présocratique. Alors, je prends à tour de rôle ces deux éléments pour vous en dire quelques mots. Alors, d'abord, philosophie. Alors, si vous voulez, le problème avec la question que pose l'emploi du terme philosophie à propos de en relation avec ce qu'on appelle la philosophie présocratique ou les philosophes présocratiques, le problème peut partir d'un simple constat qui est simplement factuel, qui est que le terme de philosophie, alors, il y a deux choses. Premièrement, que nous parlons d'une époque, le, disons, 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le 6e et le 5e siècle. Une des choses que je voulais faire, et que je n'ai pas eu le temps de faire, parce que se sont désorganisés, mais je vais vous photocopier pour la prochaine fois une chronologie. Vous avez au début du long une chronologie des auteurs pour vous mettre les idées un peu en place pour qui vient avant qui et après qui, parce que ce n'est pas des choses qui vous sont nécessairement familières. Mais donc, on est en train de parler du 6e et du 5e siècle avant Jésus-Christ, en gros. Le fait, c'est que pendant la plus grande partie de cette période, deux siècles, qui sont les deux siècles, disons, d'émergence de la pensée grecque et de naissance de la philosophie grecque, si l'on veut, mais précisément pendant ces deux siècles, deux choses. Une chose n'existe pas, c'est une discipline identifiable sous le vocable de philosophie. C'est-à-dire, il faut partir d'une situation, on est en train de parler d'auteurs que nous appelons assez naturellement philosophes présocratiques, que nous désignons assez naturellement comme étant des philosophes, mais, pour ainsi dire, qui ne savent pas ce que c'est que la philosophie. Qui n'ont par exemple aucune définition de la philosophie, qui ne se conçoivent pas eux-mêmes comme étant des philosophes. C'est-à-dire, ce milieu extrêmement naturel dans lequel nous évoluons, qui suppose une discipline intitulée philosophie, cela naît au plus tôt dans le dernier tiers du 5e siècle, donc vers 430 à peu près on peut à peu près dater l'émergence d'une conscience disciplinaire de la philosophie du dernier tiers du 5e siècle. Et donc, si vous voulez, c'est très difficile de savoir exactement le rôle de Socrate jouer dedans, il semble que Socrate se soit réclamé, je dis il semble parce que comme vous savez, c'est rien de Socrate que ce que Platon nous en dit et ce que Xénophon nous en dit. Ce sont les deux principaux témoins pour juger de l'activité philosophique de Socrate. Donc il semble qu'on puisse pouvoir dire que Socrate a mis en avant une démarche spécifique qu'il nommait philosophie. S'il l'a fait, il a été un des premiers à le faire. Et la philosophie sous la forme, disons, que nous connaissons, encore que la forme que nous connaissons, c'est pas si facile que ça à définir, ou à décrire, bien. En gros, la philosophie telle que nous l'associons à une certaine démarche à la fois de type ontologique d'une part et à un certain type d'argumentation d'autre part, c'est vraiment Platon qui la met en place. Donc, quand on parle de philosophe pré-socratique, on parle de philosophe d'avant la philosophie. Ça, c'est le premier point. Et alors, on peut naturellement se demander si cette dénomination est légitime et en quel sens. Il faut distinguer la question de la naissance ou de l'émergence de la discipline intitulée philosophie, de l'apparition du mot philosophie. Encore que les deux se succèdent, pour autant qu'on puisse le voir, de manière assez rapprochée. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire je suis prudent, vous voyez, dans toutes mes formulations, pour autant qu'on puisse le voir, il semble, etc., parce que, s'agissant de la philosophie grecque en général, et surtout des débuts de la philosophie grecque, notre savoir est extrêmement limité par les sources. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que nous ignorons, beaucoup de textes qui sont perdus, et donc on ne peut raisonner que sur ce qu'on a, qui représente, je ne sais pas, ça n'a jamais été calculé, 5 centièmes de la production, 2 centièmes de la production, c'est une infime partie de ce qui a existé. Et encore, nous ne le connaissons que de façon fragmentaire. Donc, si vous voulez, toute affirmation est présomptueuse, d'une certaine manière. Il y a certains indices que l'on peut tenter d'exploiter, et c'est ce que signifie ma prudence. Je ne l'ai pas réitéré, mais il faut savoir que tout ce qu'on raconte, en particulier d'ordre factuel sur cette époque, et pour être soumis à des réserves qui sont d'ordre simplement historique et qui sont parfois contredites par des découvertes. Et on verra dans le cours de l'année comment des découvertes, parce qu'on en fait encore, peuvent remettre en question des choses qui étaient tenues pour les évidences. Alors, le terme philosophie, mais néanmoins il faut dissocier, c'est ça mon point principal, il faut dissocier la question de la naissance de la philosophie comme discipline de l'apparition du mot philosophie dans le vocabulaire grec, dans la terminologie grecque. Si la discipline en tant que telle est relativement tardive, ce que j'entends par discipline ici, c'est une pratique consciente d'elle-même qui se décrit comme philosophique. Donc, si l'apparition de la discipline relativement tardive, à la fin de l'époque qui nous intéresse, l'apparition du mot philosophie est, à une exception près sur laquelle je reviendrai, je ne sais pas si aujourd'hui ou si un peu plus tard, elle aussi relativement tardive. C'est-à-dire que le mot philosophie, par exemple, ne fait pas partie du vocabulaire, ni d'Homère, ni d'Hésiode, de la poésie lyrique, ni du corpus culturel, disons, que l'on trouve du 7e au 6e siècle avant Jésus-Christ. À vrai dire, le terme philosophie, encore une fois, il y a une petite exception près sur laquelle je reviendrai, apparaît au plus tôt vers les années 440, c'est-à-dire à peu près en même temps que le moment où on peut saisir quelque chose comme l'émergence d'une discipline philosophique. Le mot philosophie est lui aussi relativement tardif. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce mot apparaît dans un sens qui n'est pas celui que l'on attache à la discipline. C'est-à-dire le mot philosophie, dans ses premiers emplois, ne désigne pas la discipline que nous désignons par le mot de philosophie. Alors, ça, c'est un point sur lequel je vais un tout petit peu expliciter en vous parlant des quelques textes, là, des 3-4 textes que je vous ai distribués sur la feuille que vous avez. J'en cite d'autres dans mon livre. Alors, un des textes les plus importants pour l'emploi du les premiers emplois du terme philosophie. On le trouve non pas chez les philosophes. D'ailleurs, les deux textes les plus importants sur la philosophie, on ne trouve pas chez les philosophes, mais chez les gens que l'on qualifierait d'historiens, chez Hérodote, c'est le texte que je vous ai reproduit, et chez un médecin dont je ne vous ai pas reproduit le texte, qui est un traité hippocratique qui s'appelle L'ancienne médecine. C'est dans un traité d'ancienne médecine, c'est dans le traité intitulé L'ancienne médecine, que l'on trouve, à vrai dire, la première occurrence du substantif philosophia, dans la bouche d'un médecin. Ce texte de l'ancienne médecine est à peu près contemporain, c'est au chapitre 20 de l'ancienne médecine, pour ceux qui voudront aller voir, à peu près contemporain sans doute de ce texte de l'ancienne médecine est le passage d'Hérodote que je vous ai reproduit au livre 1, chapitre 30. Et alors Hérodote est en train de parler de Solon, qui est en voyage, Solon l'Athénien, Solon le réformateur l'organisation sociopolitique athénienne dans un moment de crise. Et Hérodote dit, à propos de Solon, qui est en voyage en Lydie, auprès du roi Crésus, Hérodote dit, alors que Solon regardait et examinait toutes choses, Crésus lui dit, étranger d'Athènes, grande est la réputation dont tu jouis chez nous en raison de ton savoir et de tes tribulations, parce que, en philosophe, tu as parcouru pour observer une vaste terre. Vous voyez ce que ça signifie ? Ça signifie, alors d'abord, on n'a pas affaire ici au substantif philosophie, mais on a affaire à un verbe, philosopher. Et cette philosophie, activité de philosophie, de philosopher, consiste quoi ? Consiste à être curieux, curieux du monde. C'est une activité, je veux dire, qui ressemble plus au tourisme intellectuel qu'à autre chose. C'est-à-dire, on va à l'étranger, on sort de chez soi et on va voir ce qui se passe ailleurs. Et on parcourt le monde, le monde pour observer. Et ce que je traduis par « pour observer », ce que tout le monde traduit par « pour observer », se dit en grec avec le mot « théoria »,« théories eneka », pour, en vue de la théorie, c'est-à-dire la théorie, le sens premier de théorie en grec, c'est simplement, en effet, ça n'a rien à voir avec la théorie, ça a à voir avec, ce que nous appelons théorie, ça a à voir avec l'observation des coutumes, des mœurs, des différences. Oui.
C'est intéressant parce que c'est exactement dans ces termes que Hérodote caractérise autant l'activité.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en effet, il y a dans Hérodote du philosophe en ce sens. C'est-à-dire on ne peut pas mieux dire la connotation, disons, non philosophique, dans le sens qui est le nôtre, du terme philosophie, que de remarquer, comme vous le faites, que Hérodote lui-même peut être dit pratiquer une forme de philosophie, dans la mesure même où il, vous savez ce que signifie le titre, histoire, on parle toujours des histoires d'Hérodote, mais ce sont les enquêtes, et donc c'est l'enquête dans le monde, quoi. On va voir ce qui se passe. Donc, ça c'est un texte très intéressant, précisément parce que si vous voulez, il lit les deux termes de philosophie et de théorie dans deux sens qui ne sont pas, ou pas directement du moins, le sens que nous attachons à ces deux termes depuis, disons, Socrate et Platon. La théorie, c'est l'observation des... il faut traduire en philosophe, si on veut traduire en philosophe, c'est l'équivalent de quelqu'un qui est avide de savoir. quelqu'un qui est avide de savoir, c'est quelqu'un qui est curieux, je veux dire le curieux. Alors, ça c'est une, quelque chose très, un autre, disons, contexte un peu éclairant, pour, un autre type d'éclairage intéressant pour comprendre cette connotation première du terme philosophie, c'est de le comparer précisément à la définition que Platon donne de la philosophie dans le livre 5 de la République, parce que dans le livre 5 de la République, Platon, qui a manifestement encore affaire à une représentation de la philosophie, qui a affaire en ce sens que ses interlocuteurs véhiculent tout naturellement la représentation de la philosophie comme une avidité pour le savoir. Donc, si vous voulez, les interlocuteurs de Platon dans la République, de Socrate dans la République, sont des gens qui véhiculent l'idée de la philosophie qui est très proche de celle que nous voyons représentée dans ce texte de Solon. Ce sont des gens, précisément, comme vous vous rappelez, qui aiment les belles choses. Ce sont des gens qui aiment les spectacles. Ce sont les gens qui aiment aller au théâtre. Ce sont les gens qui aiment se cultiver. Ce sont des gens qui sont avides d'un savoir qui n'est plus exactement le savoir, disons, des contrées nouvelles qui peut animer Solon, mais qui est l'avidité culturelle, l'avidité du savoir culturel. Et alors, Platon est obligé de dire contre cette représentation à Glaucon, qui est son interlocuteur, « Mais non, mon cher Glaucon, ça, ce que tu définis là, ce ne sont pas des philosophes, ce sont... » Alors, il y a deux mots qu'il emploie. Il emploie un mot qui est « philo-théamon », qui signifie « amateur de spectacle », précisément. Vous voyez, dans « théamon », c'est la même racine que « théoria », c'est ce que l'on regarde. On aime voir des choses. Ça, ce sont des philo-théamones, et ces philo-théamones, ces amateurs de spectacle, sont définis dans une autre, à l'aide d'un autre couple d'opposition, non pas comme des philosophes, mais comme des doxosophes. C'est moins connu, mais c'est plus connu, les doxosophes. Les doxosophes, ce sont ceux qui précisément ne sont pas philosophes, parce que ils ne recherchent pas vraiment la sagesse, ils cherchent les opinions sur la sagesse. Ce sont des amateurs d'opinions, par opposition aux vrais philosophes, qui sont des amateurs de vérité. Alors, ça, ce livre 5 de la République, je vous le cite, pour vous montrer que cette représentation primitive du philosophe, ce sens primitif de philosophe, perdure jusque dans la République de Platon, où précisément Platon est obligé de le combattre pour remplacer, pour réserver à la philosophie un autre type d'intérêt qui est défini alors de manière plus ontologique. Le philosophe, c'est celui qui aime la vérité, c'est celui qui aime l'être. L'attention, le désir se fixe sur l'être ou la vérité et non pas sur la multitude des choses intéressantes, je sais, qui composent le monde. Alors, dans de la philosophie grecque, ou disons dans la réflexion grecque sur l'origine de la philosophie, parce que nous ne sommes pas les seuls à réfléchir sur l'origine de la philosophie, les Grecs aussi avaient réfléchi sur l'origine de la philosophie. Et ils s'étaient interrogés, et pas seulement nous, sur la question de savoir ce que signifie le terme de philosophie. on trouve une histoire extrêmement célèbre. En vertu de laquelle celui qui a découvert le mot de philosophie, ou plus exactement celui qui a inventé le mot de philosophie, c'est Pythagore. Alors deux remarques à ce propos, puis on va lire ensemble un texte très connu. Une remarque préalable, c'est que si les Grecs s'interrogeaient sur l'origine du terme philosophie, c'est-à-dire s'ils étaient capables de le percevoir comme une invention, c'est évidemment qu'ils considéraient qu'il s'agissait d'une certaine manière d'un néologisme. C'est-à-dire, ils avaient conscience du fait que la discipline philosophique passe, l'émergence de la discipline philosophique passe par la création d'un mot spécifique qui ne fait pas partie de la langue courante, pour ainsi dire, et dont il est besoin de supposer qu'il ait été introduit par une figure philosophique elle-même éminente, qui est Pythagore. Donc on a des anecdotes, des récits, qui lient l'introduction du terme philosophie à Pythagore. Maintenant, Pythagore, chronologiquement, c'est très difficile, parce que Pythagore est une figure obscure, bon, je n'en parlerai pas beaucoup cette année, je pense, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais c'est une figure un peu quasi mythique, mais en tous les cas, dont, si on doit la placer chronologiquement quelque part, nous fait remonter bien au-delà du disons, dernier tiers du 5e siècle dont je suis en train de parler, qui nous fait remonter quelque part au milieu du 6e siècle. C'est-à-dire avec Pythagore, on est vraiment chronologiquement de manière objective, et en tout cas dans la conscience que les Grecs en avaient, on est beaucoup plus proche des origines. C'est-à-dire, Pythagore, c'est une figure archaïque au sein de cette période archaïque que nous traitons. Là, j'ai parlé de la fin du 5e siècle. Là, on se trouve quelque part au milieu du 6e siècle. Voilà. Alors, on va lire rapidement un des témoignages les plus célèbres sur l'invention du terme philosophie par Pythagore, et ensuite je vais vous le commenter rapidement. Alors j'ai pris cette traduction des Tusculanes, vous trouvez, donc c'est le texte des Tusculanes, livre 5, l'introduction de ce livre 5 au chapitre 3. Et comme je n'avais pas de traduction des Tusculanes sous la main, et que de toute façon, je n'avais pas envie de le recopier en admettant que je l'ai eu, je suis allé, chose exceptionnelle que je ne fais jamais, sur Internet, et j'ai trouvé la merveilleuse traduction datant de 1841 de M. Nisard sur les Tusculanes de Cicéron. C'est formidable Internet. Une petite parenthèse. Je suis absolument pas contre l'usage d'Internet, hein, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Internet. Le problème, c'est que, évidemment, les problèmes de fraude dont on vous a parlé, etc., j'y reviens pas, ça va de soi. Mais deuxièmement, le problème d'Internet, c'est de savoir contrôler l'information, parce que vous trouvez tout et n'importe quoi. Hein. Donc, vous trouvez tout et n'importe quoi dans les livres aussi. Simplement, en général, dans les livres, on vous recommande de lire telle et telle chose, et par définition, on ne peut pas vous recommander, sauf dans des cas exceptionnels, et je ne suis certainement pas la personne pour ça, parce que je suis un utilisateur tout à fait occasionnel d'Internet, je n'ai pas spécialement ça, mais il faut reconnaître qu'on trouve des choses formidables sur Internet, et en particulier, on trouve des livres formidables. On vous évite d'aller en bibliothèque, etc. Simplement, il faut savoir s'en servir. Donc, ce que je vous demande, c'est dans les devoirs ou dans les utilisations que vous en ferez, Puis ça m'intéresse de savoir comment, parce que c'est des nouvelles technologies, on ne peut pas y éviter, on peut travailler à les améliorer, mais on ne contournera pas. Donc ce qui m'intéresse, c'est si vous en faites usage, comment vous en faites usage, et de m'indiquer systématiquement la source. C'est-à-dire, vous faites avec Internet comme vous faites avec un livre, vous dites, je l'ai trouvé sur tel ou tel site. Par exemple, imaginons que vous ayez besoin de traduction, comme j'ai eu besoin d'une traduction là. Là, je vous ai pas indiqué le site sur lequel je l'ai trouvé, mais je vous demande de me dire quelles sont réellement les sources, si vous faites un usage d'Internet plutôt que d'un livre. Donc, vous citez Internet comme vous citez un livre. D'accord ? Et ensuite, moi, je peux aller voir et vous dire, c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est un problème extrêmement intéressant parce qu'il est clair que les bonnes choses sur Internet sont souvent liées à des conditions d'accès qui ne sont pas permises à tout le monde, etc. C'est un problème très compliqué. Bon, cette parenthèse étant fermée, on lit ensemble le passage des Tusculum. Alors, Cicéron dit, un jour, dit-il, c'est un des interlocuteurs du dialogue, je ne me souviens plus, Léon, roi des Phliasiens, les Phliasiens, ce sont les habitants de la cité de Phlionte, entendit Pythagore discourir sur certains points avec tant de savoir et d'éloquence que ce prince, saisi d'admiration, lui demanda quel était donc l'art dont il faisait prophétie. À quoi Pythagore répondit qu'il n'en savait aucun. Ça, c'est très important. Il n'en savait aucun, mais qu'il était philosophe. Et c'est sur quoi le roi, surpris de la nouveauté de ce nom, le nom est nouveau, c'est un néologisme, le pria de lui dire qui était donc le philosophe et en quoi il différait des autres hommes. Et là vient la réponse très célèbre de Pythagore, qui explique au tyran de Phlionte qu'il en est de ce monde et du commerce de la vie, comme de ces grandes assemblées qui se tiennent parmi nous à l'occasion des jeux publics. Match de rugby, France, Angleterre. On sait que dans le concours de ceux qui s'y rendent, il y a des gens qui n'y sont attirés que par l'envie de se distinguer dans les exercices du corps, les membres de l'équipe de rugby en question. Et d'hériter la couronne. D'autres qui n'y sont conduits que par l'espoir d'y faire quelques profits en vendant ou en achetant des marchandises. Des marchands de glace. D'autres encore qui pensent, les présidents de la République, qui en profitent pour avoir un train de visite avec l'industriel, pour le convaincre. D'autres encore qui, pensant plus noblement, n'y vont chercher ni profit ni applaudissement, donc les deux premières catégories, mais songent uniquement à voir ce qui s'y passe. Les spectateurs. Et faire leur réflexion sur ce qui s'y présente à leurs yeux. On en peut dire autant de tous les hommes qui, passant d'une autre vie en celle-ci, comme on passe d'une ville ou d'une assemblée dans une autre, y apporte des vues différentes, car tantis que les uns cherchent la gloire et les autres une richesse, donc correspondant aux joueurs d'un côté et aux marchands de l'autre, il y a une troisième espèce d'hommes, mais peu nombreuses, qui, regardant tout le reste comme rien, s'applique principalement à la contemplation des choses naturelles, et là vous avez le mot contemplation, contemplation en latin, qui correspond au théoria grec, et que vous avez, et qui motive l'analogie du spectacle. À la contemplation des choses naturelles. Ce sont ces derniers qui se disent philosophes, c'est-à-dire amateurs de sagesse. Et comme à l'égard des jeux, il n'est rien de si honnête que d'y assister sans aucune vue intéressée. De même, en ce moment, la profession la plus noble est celle d'une équipe qui n'a d'autre vue et de parvenir à la connaissance de toutes choses. Voilà, je vous laisse partir.
Merci.
Voilà, donc ça, si vous voulez, deux choses. Premièrement, c'est un texte qui a eu une influence absolument extraordinaire sur la représentation, sur l'image du philosophe comme l'homme de la vie contemplative, théoricien, en ce sens, celui qui regarde, celui qui observe, sans être engagé dans les profits que l'on peut tirer du monde, mais qui est là simplement pour regarder. Donc, c'est l'idée de la philosophie comme théorie, ça c'est le texte canonique qui a la base duquel s'est élaborée au cours des siècles l'image du philosophe contemplatif. Et naturellement, c'est un texte d'inspiration, c'est Cicéron qui l'écrit, c'est un texte dont on n'aurait pas de mal à trouver, sans la comparaison avec Stahl, etc., on n'aurait pas de mal à trouver l'équivalent de ces textes chez Platon lui-même, c'est-à-dire le philosophe comme le représentant de la vie théorique. L'image du stade, etc., et l'analogie avec les rencontres sportives, n'étant qu'un développement illustratif de cette idée de la philosophie comme théorie. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que cette anecdote soit rapportée à Pythagore. Parce que la situation est la suivante. Si Cicéron a raison de nous dire, ou si plus exactement, on peut accorder une confiance historique aux informations qui sont contenues dans ce texte, l'invention du terme philosophie allant de pair avec une certaine représentation de la philosophie, une certaine conception de la philosophie comme, disons, vie théorique, remonte assez haut, puisqu'elle remonterait à Pythagore lui-même. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, au début, du caractère relativement tardif de l'apparition de la philosophie en tant que discipline, et de l'apparition relativement tardive du mot même de philosophie dans un sens qui n'est pas celui lié à l'exercice de la discipline, ces observations, évidemment, s'écroulent si on peut déplacer d'un siècle et demi le moment de l'émergence d'une conscience d'une activité théorique d'observation non engagée liée à la création d'un néologisme, en l'occurrence d'une bonne philosophie. Vous voyez, tout dépend d'une appréciation au fond de la valeur historique de ce témoignage. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de la démonstration, mais simplement je vous donne un résultat sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, encore que s'agissant de ces choses, quand on dit que à peu près tout le monde est d'accord, ça veut dire que c'est contesté par certains, et évidemment, en ces matières, il n'y a pas de certitude, encore une fois, absolue. Mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce texte de Cicéron est un texte qui attribue fictivement à Pythagore, qui est considéré comme, pour une raison sur laquelle je vais vous dire un mot tout à l'heure, qui est considéré comme étant l'ancêtre de la philosophie platonicienne. Donc tout le monde s'accorde à dire que ce texte de Cicéron reflète la projection ou l'attribution rétroactive à Pythagore, qui est considéré comme l'ancêtre de la philosophie platonicienne, d'une représentation typiquement platonicienne. C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on a à faire dans ce texte, Ce à quoi on a affaire dans ce texte, en dépit de la présence du nom Pythagore, ça n'est autre chose que du Platon rejeté sur le grand ancêtre qui est Pythagore. Alors, j'ouvre une parenthèse généralisante à ce propos. Ça, c'est une situation qui n'est absolument pas atypique du matériau auquel nous avons affaire. C'est-à-dire qu'une des difficultés qui découle du fait que notre information sur les présocratiques est en grande partie liée à ce que j'ai appelé la dernière fois des témoignages, c'est-à-dire à des écrivains qui écrivent sur d'autres auteurs qui les ont précédés, sans que nous ayons nécessairement accès à l'information directe, ce fait donne lieu naturellement à des phénomènes d'appropriation, à des phénomènes d'interprétation face auxquels nous devons être prudents et critiques, au fond. Et donc, c'est pour ça que le maniement de ces informations demande une formation assez considérable, parce qu'il faut être précisément en état de savoir, au fond, très bêtement, de juger de la valeur historique ou idéologique des informations qui sont concernées dans un texte. Là, vous avez un très bon exemple. Je crois que même vous qui n'êtes pas familier, disons, de ce genre de texte, vous comprenez de quoi il s'agit. Si Pythagore est considéré comme le grand ancêtre du platonisme, eh bien, on va attribuer à Pythagore lui-même quelque chose qui, en fait, n'appartient qu'à Platon. Et avec ça, une fois qu'on a décrit cette situation, il est évident que la valeur historique des informations contenues dans un tel texte est réduite à néant, puisque ce que nous avons, c'est au fond une représentation platonicienne avec une information supplémentaire, si l'on veut, que l'on tire indirectement du texte, à savoir que les platoniciens se réclamaient de Pythagore comme de leur grand ancêtre, ce que l'on sait par ailleurs. D'accord ? Et donc, de notre point de vue, je vous ai expliqué tout ça pour vous dire que ce texte n'est pas du tout une objection à ce que je vous ai raconté au début du caractère relativement tardif de l'introduction du mot philosophie et de l'apparition relativement tardive de la discipline philosophie. Au contraire, il vient appuyer ce constat à partir du moment où on arrive à reconnaître en lui les traits caractéristiques d'une appropriation postérieure de la philosophie pythagoricienne. Bon, ça va ? Oui ou non ?
Oui, j'ai une question. Dans la définition qui est donnée de ce texte de la philosophie, elle semble plutôt entre guillemets, postérieure à celle de Platon dans la République.
Pourquoi ? Alors, parce qu'on ne vous entend pas. Hein. Monsieur disait que votre nom,
c'est... Il parle du philosophe comme quelqu'un qui a vite de connaissance, pas tellement comme quelqu'un qui...
Oui et non. Alors, je vois ce que vous voulez dire. L'objection, c'est que... Il y a une partie de la question que je n'ai pas entendue, c'est-à-dire que vous dites postérieure, pas tant que postérieure.
Antérieure. Oui, antérieure.
La réflexion, c'est que, au fond, la philosophie est décrite ici comme, non pas comme platonicienne, une bonne question, hein, que la philosophie semble, et que l'activité philosophique ici semble décrite non pas dans les termes, disons, de la philosophie platonicienne, donc de la théorie au sens platonicien du terme, mais plutôt décrite dans les termes de l'avidité du savoir. Donc ce que j'ai opposé à la conception platonicienne. Alors, quand je dis oui et non, c'est pour la raison suivante. deux choses d'abord. Il y a le fait que il y a les spectacles et l'activité philosophique. Les spectacles, donc le spectacle, le théâtre, regarder la compétition, n'est-ce pas, sert d'illustration à une autre activité qui engage également, disons, la vue. D'accord ? Regarder la compétition du côté de celui qui s'intéresse au match de rugby, vous regardez quoi du côté de ce qui est le terme de comparaison, c'est-à-dire le philosophe. Vous regardez, dit le texte de Cicéron, la contemplation des choses naturelles. La contemplation des choses naturelles. C'est, alors, la contemplation des choses naturelles, vous avez raison, il faut que j'explicite un peu. La contemplation des choses naturelles, vous pourriez me dire, mais la contemplation des choses naturelles, c'est ça le fond de la question, la contemplation des choses naturelles, c'est au fond la même chose que Solon. Solon aussi, il va chercher en lui le monde. Hein, il s'intéresse au monde. Il s'intéresse aux choses du monde. Il s'intéresse à la diversité du monde. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire, ce que Cicéron entend ici par chose naturelle, c'est, disons, l'univers, c'est le ciel, c'est plus précisément la théorie du cosmos. Donc, si vous voulez, par rapport à Solon, c'est une vision au moins déjà globalisée de la nature. Et l'objet de la contemplation n'est pas la contemplation... Alors, c'est vrai, l'activité de Solon et l'activité de Platon, pour le dire d'un mot, a ceci en commun que ce sont deux activités du regard. Mais ce ne sont pas des activités du regard qui portent sur le même type d'objet. Voilà. Et donc, l'activité théorique platonicienne porte... Alors, s'il s'agit de Platon lui-même, sur les formes, naturellement, sur les idées... S'il s'agit des présocratiques vues par Platon, cette activité théorique porte sur le cosmos tenu pour représentant de l'ensemble de ce qui est. C'est-à-dire, il y a dans l'objet de l'activité philosophique une universalité, c'est ça le terme clé, qui n'est pas donnée ou qui n'est pas impliqué par la dispersion des objets particuliers qui sont le centre d'intérêt de quelqu'un comme Solon. Donc, vous avez raison, ça doit être précisé, ça passe par la notion, par une définition plus précise de l'objet de la théorie. Alors, le texte le meilleur, parce que je ne peux pas tout expliquer en détail, ça, pourquoi pas, on pourrait, enfin je ne vais pas le faire, je crois. On y revient peut-être plus tard dans l'année, parce que sinon on s'arrête. Mais je vous donne la référence qui répond exactement à votre question, je pense. C'est dans le Phèdre de Platon, quand Platon décrit Anaxagore, donc le représentant par excellence de la philosophie présocratique pour Platon. Quand Platon, dans le Phèdre, décrit Anaxagore comme celui qui a la tête levée vers le ciel, il le décrit comme un météorologue. Météorologue, vous savez qu'en grec, météoros, signifie qui est en l'air. C'est les choses, ta météora, les météores, c'est pas les météores qui tombent sur la Terre, c'est aussi les météores qui tombent sur la Terre, mais les météores, c'est l'espace, c'est le ciel, c'est le haut. C'est l'objet de l'observation scientifique du cosmos. Et donc, naturellement, il y a un certain air, il y a une généalogie entre l'intérêt que Solon peut porter aux choses du monde et l'intérêt que l'on peut porter au fonctionnement du cosmos en tant que tel. Néanmoins, l'activité philosophique de porter son intérêt sur l'ensemble du cosmos en tant que tel a quelque chose de déjà beaucoup plus théorique au sens platonicien que ne l'est la théorie plus particulière, plus particularisante, plus éclatée, la curiosité du savoir de type solonien. Pour le dire encore d'une autre façon, qui pourrait être utile, du point de vue de Platon, Solon est un polymathe. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et n'importe quoi. Il s'intéresse à tout ce qui est intéressant, sans discrimination, pour ainsi dire. Alors que l'avidité du savoir, caractéristique d'un philosophe comme Anaxagore et comme Platon, c'est qu'elle porte sur une totalité qui, chez Anaxagore et chez les présocratiques, est représentée par l'ensemble des phénomènes naturels, dans le système du monde, et chez Platon, à un niveau d'abstraction supérieur, est représenté par ce que Platon appelle l'être, c'est-à-dire les formes. Donc, si vous voulez, encore une autre, il n'y a pas de discontinuité absolue, mais de discontinuité relative. Voilà. Alors, un deuxième exemple. Alors ça, je vous ai cité ce texte de Cicéron, vous avez bien lu, pour, à titre de contre-exemple possible, pour un emploi relativement archaïque du terme philosophie, et ce que j'ai dit, c'est que, en fait, ce qui paraissait être un contre-exemple n'en était pas un. Oui. Oui, c'est un mouvement un tout petit peu plus compliqué, mais qui est tout à fait correct. C'est-à-dire qu'on peut considérer, par exemple, ce que vous dites est vrai. Par exemple, on voit très très bien que, par exemple, dans le métaphysique d'Alpha, on va revenir, dans le premier livre de la métaphysique, on voit très très bien que, qu'il y a une continuité, d'ailleurs qu'Aristote souligne, entre la théorie pythagoriste, ou l'intérêt pythagoricien pour le nombre, et disons, la philosophie des principes de Platon, dans la mesure où elle repose sur une certaine conception des nombres aussi. Et donc, naturellement, si les platoniciens se sont réclamés de Pythagore, alors c'est moins Platon lui-même, Platon sera considérer qu'on se réclame un peu de Pythagore dans les Phédons, etc. C'est pas l'essentiel. Mais on sait qu'un disciple de Platon, qui s'appelle Scleusippe, s'est réclamé explicitement de Pythagore en relation avec la théorie des nombres. Et donc, il est évident que si les platoniciens se sont réclamés de Pythagore, c'est parce qu'il y avait dans Pythagore quelque chose qui était, comment dire, en affinité avec la philosophie platonicienne. Ça, je ne le dis pas. Pas une construction absolument arbitraire.
Ce que je voulais dire, c'était que, par exemple, dans Ténèbres, qui reste un portrait de Pythagore.
C'est Thalès.
C'est Thalès.
Oui. Qui dans le film, c'est Thalès. On en reparlera, mais Pythagore n'apparaît pas. Le nom de Pythagore n'apparaît pas.
Donc en fait, je pensais que
Ah oui, non. Alors, deux choses. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce que j'aurais pu citer ce texte aussi. Vous voyez, l'anecdote du Théétète, qui d'une certaine manière est plus connue, bien que vous l'ayez associée à Pythagore et non pas à Thalès, ce qui est le cas. Dans le Théétète, il y a ce fameux épisode du portrait du philosophe qui regarde en l'air et qui tombe dans un puits. Et donc, qui est marquer l'incapacité du philosophe à s'orienter sur la Terre, etc. Qui est en relation avec, naturellement, la question de la vie théorique. C'est-à-dire que la vie théorique, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Là, c'est une problématique qui est au sens du Théétète. C'est associé au nom de Thalès. Ce qui signifie que Pythagore, naturellement, n'était pas la seule personne possible capable de supporter cette rétrojection platonicienne du philosophe en tant que théoricien. C'est-à-dire que les philosophes présocratiques, de manière générale, ont été considérés comme des théoriciens au sens où nous le trouvons illustré dans ce texte de Platon, dans ce texte de Cicéron par Pythagore, où nous le trouvons illustré dans le Théétète par Thalès, et Anaxagore serait un troisième exemple éminent. Mais c'est un chaîne de pensée, cette opposition de la vie théorique et de la vie pratique, pour le dire rapidement. Donc, on a affaire, dans le cas du Théétète de Platon, exactement au même cas, c'est pas exactement le même cas de figure, mais c'est le même chaîne que celui que j'essaie d'illustrer ici, avec Pythagore. La raison pour laquelle j'ai choisi ce texte de Cicéron, et non pas le texte du Théétète, c'est que le texte de Cicéron présente l'intérêt de parler explicitement du terme philosophia et de l'origine du terme philosophia, ce qui n'est pas le cas d'un peu. Voilà. Donc, le deuxième exemple que je voulais, le deuxième contre-exemple possible que je voulais vous donner, et qui est d'une certaine manière plus difficile, mais aussi très intéressant, enfin, peut-être plus difficile, peut-être parce que plus difficile, plus intéressant, c'est celui du fragment d'Héraclite, que je vous ai reproduit aussi, donc maintenant vous êtes familier avec la nomenclature, 22b35, DK, ça signifie, c'est le chapitre 22 dans le Dies Trans, c'est un fragment d'Héraclite, qui porte le numéro 35. Et donc ce numéro 35, on peut le traduire de plus d'une façon, mais une des façons les plus vraisemblables de le traduire, c'est celle que je vous ai reproduite, c'est ce que je vais reproduire, et c'est « Il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses ». Il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses. Alors ça, c'est intéressant parce que contrairement au témoignage de Cicéron qui est un témoignage, enfin, contrairement au texte de Cicéron qui est un témoignage, là, on a affaire un fragment. C'est-à-dire, c'est un fragment cité par un auteur qui s'appelle Clément d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie dit, Héraclite a dit que, et il n'y a pas de guillemets en grec, c'est une difficulté, parce que ça ne facilite pas l'identification d'un fragment en tant que tel, d'une citation littérale. Enfin, on peut considérer qu'il s'agit d'une citation littérale. Et donc, on a un texte d'Héraclite, vous voyez la situation est tout à fait différente de celle du texte de Cicéron, on a un texte d'Héraclite, on a des paroles d'Héraclite qui disent « Il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses ». Parole profonde s'il en fut, mais difficile d'interprétation, mais qui est intéressante pour nous en tous les cas, parce que c'est, du point de vue chronologique, en termes absolus, si le texte est vraiment d'Héraclite, ce que certains n'ont pas manqué de contester, si le texte est vraiment d'Héraclite, c'est la première occurrence, en absolument parlant, du mot philosophe en grec. Et ça, ça nous remonte aussi chronologiquement beaucoup plus haut que les années 430 dont j'ai commencé à vous parler, puisque Héraclite, en gros, c'est la fin du 6e siècle. C'est moins haut que Pythagore, parce qu'on a un fragment d'Héraclite qui cite Pythagore, et donc nécessairement Pythagore est est antérieure à Héraclite, mais on est quand même au tournant, disons, du 6e et du 5e siècle, très vraisemblablement dans les dernières années du 6e siècle, donc 80 ans avant le texte d'Hérodote. Et donc là, on a le terme philosophe qui apparaît. Alors maintenant, interprétation du texte d'Héraclite. Il y a deux interprétations possibles. Alors vous savez, Héraclite est toujours très difficile à interpréter. Il y en aura peut-être, par exemple, que c'est difficile à interpréter, etc. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire de « il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses ». Eh bien, à la lumière de ce que je vous ai dit tout à l'heure, une interprétation de ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, en particulier si vous songez au texte de Solon, une interprétation possible de ce texte consiste à dire que Héraclite connaît déjà le sens du terme philosopher qui est attesté chez Solon. Qu'il connaît déjà ce sens, qu'il emploie déjà le terme philosopher dans ce sens que j'ai lié à, disons, l'avidité du savoir, ou à l'envie de connaître, comme dit Héraclite, beaucoup de choses. Le philosophe, c'est celui qui a envie de connaître beaucoup de choses. Le point, c'est que Héraclite dit « il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses ». L'important, c'est « il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses ». Maintenant, là où la chose devient vraiment intéressante, c'est qu'on sait par d'autres fragments d'Héraclite que Héraclite entretient un certain mépris pour les gens qui connaissent beaucoup de choses. Il y a un fragment célèbre d'Héraclite, alors c'est lié à ce concept que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, qui joue un rôle important dans la problématique que je suis en train d'esquisser, qui est le mot polymathie. Héraclite peut être considéré comme le premier d'une longue tradition de philosophes qui trouve que pratiquer la philosophie, c'est n'a rien à voir avec être polymathe, et au contraire que la polymathie est un signe de non-philosophie. Il y a un très célèbre fragment d'Héraclite, qui est le fragment 40, qui dit le savoir abondant, ce que je traduis par le savoir abondant, c'est le mot grec polymathia, polymathie, la polymathie. Le savoir abondant n'apprend pas l'intelligence. Une parole qui a eu un certain effet puisqu'on vous la rencontre, on vous la répète encore à toutes les rentrées scolaires et universitaires. Ça passe par Montaigne, évidemment, en France. Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Mais quand vous passez le concours d'AGREG, on vous dit aussi, vous savez, ce qui compte, c'est pas ce que vous savez, le nombre que vous savez, mais la façon dont vous pouvez organiser les choses, etc. Donc, la polymathie n'enseigne pas l'intelligence. Alors, si Héraclite pense que la polymathie n'enseigne pas l'intelligence, et s'il dit par ailleurs que il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses, une interprétation possible, c'est que c'est que Héraclite considère qu'il ne faut pas être philosophe. C'est logique, non ? Voilà. C'est quand même un résultat intéressant. Et qui vous montre bien le problème que je pose quand je me demande dans quelle mesure est-il légitime de, et en quel sens est-il légitime de parler de philosophie à propos des penseurs présocratiques. Peut-être c'est légitime de le faire, mais peut-être pas dans le sens du terme philosophie qui est celui qui est supposé, semble-t-il, à la fois par ce fragment d'Héraclite et par le passage de Solon. Donc, si vous voulez, on peut arriver à une formulation un peu paradoxale, que d'une certaine manière, la philosophie, si c'est ça l'interprétation à laquelle on s'engage, la philosophie au sens où nous la connaissons, c'est construite contre la philosophie, au sens où eux l'entendaient. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de ce qu'a commencé à être la philosophie pour être véritablement philosophe dans un sens, disons, héraclitéen. Il y a d'autres interprétations possibles. Par exemple, les gens qui pensent que le témoignage de Cicéron sur Pythagore a une valeur historique et que donc on peut faire remonter à Pythagore lui-même une notion de philosophie qui est déjà une notion, disons, quasi platonicienne. Eh bien, sont tout à fait capables d'interpréter ce fragment d'Héraclite en lui donnant un autre sens. On peut dire, par exemple, il faut que les philosophes aient vu beaucoup de choses, mais on peut sous-entendre, mais ça ne suffit pas. C'est certainement savoir beaucoup de choses est une condition, dirions-nous en langage contemporain, nécessaire pour être philosophe, mais peut-être pas une condition suffisante pour être philosophe. Et dans ce cas-là, si on adopte ce type d'interprétation, on prend philosophie naturellement dans un tout autre sens, c'est-à-dire non pas dans le sens de la curiosité polymathique, mais au contraire dans un sens compatible avec une conception, disons, platonicienne de la philosophie, où certainement l'objectif de Platon n'est pas de dire il ne faut rien savoir, mais il dit l'objet de la philosophie à proprement parler ne peut pas consister dans la problématique, c'est quelque chose au-delà de la philosophie, et c'est cet au-delà de la philosophie, et c'est cet au-delà de la problématique, excusez-moi, c'est ce même geste que l'on trouverait déjà exprimé dans le fragment d'Héraclite. Oui.
J'ai deux questions à propos de la citation, enfin, de ce fragment d'Héraclite. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut imaginer que Clément d'Alexandrie connaissait plus de choses d'Héraclite que nous ? Et la deuxième question, dans quel contexte ça intervient ?
Dans quel
contexte ça intervient chez
Clément ? Alors, à la première question, ça dépend de ce qu'on entend, qu'il en connaissait plus. Alors Clément d'Alexandrie, je crois que c'est le deuxième siècle après. Je le situe chronologiquement. Je suis pas entièrement sûr. J'ai une petite hésitation sur la date. Il en connaissait certainement plus dans la mesure où on peut penser qu'il avait accès aux livres d'Héraclite, c'est-à-dire qu'il extrayait, on discute de ça, mais on peut penser qu'il extrayait du livre même d'Héraclite. Il est possible aussi qu'il extrayait d'un livre de Florilège d'Héraclite, on ne sait pas bien. Le contexte de Clément, c'est souvent le même. Clément est un auteur chrétien. qui a écrit un livre qui s'appelle Les Stromates. Les Stromates, ça signifie en grec les tapisseries. Et c'est un des auteurs chrétiens qui est partisan de la conciliation entre les sagesses païennes et la sagesse chrétienne. Et donc qui écrit un livre pour montrer que fondamentalement les Grecs sont en accord avec les enseignements du Christ. Et les stromates, c'est quoi? C'est un entrelacement de sites, d'où l'image du tapis, c'est un entrelacement entre des citations tirées d'auteurs, c'est une mise en parallèle de citations tirées d'auteurs païens et d'auteurs chrétiens pour dire que ils disent la même chose. Alors, ce que je ne sais pas vous dire, je peux vous vérifier facilement la prochaine fois, pour la prochaine fois, c'est quel est le parallèle que Clément utilise ici, c'est-à-dire quel est l'auteur chrétien, quelle est la citation chrétienne qui répond à cette citation d'Héraclite. Et au fond, la question que vous posez pose deux questions, c'est-à-dire comment Clément l'entendait? Est-ce qu'on peut savoir comment Clément l'entendait? Je ne suis pas capable de vous répondre, mais je le vérifie volontiers. Et deuxièmement, est-ce que la façon dont il l'entendait est une façon dont nous puissions l'entendre aussi? Et distinguer ces deux questions, et c'est pour ça que je relève votre question, qui est intéressante aussi, distinguer ces deux niveaux est une opération toujours fondamentale quand vous avez affaire à ce genre de texte, parce que ce que eux, ils pensaient, ce que les citateurs pensaient, de la citation qu'ils font, a très très souvent été prise, beaucoup plus souvent qu'on pense, pour le sens originel des paroles de l'auteur cité, sous prétexte qu'ils étaient plus près, sous prétexte qu'ils étaient plus, qu'ils en savaient plus, sous prétexte que je ne sais pas. Hein. Alors qu'on a autant de bonnes raisons, on a autant de raisons de penser que quand un auteur ancien rapporte quelque chose sur un de ses prédécesseurs, il se livre à un travail d'appropriation souvent très idéologique, comme c'est dans le cas de Clément, qui en fait nous éloigne du sens originel de la pensée. Donc c'est très très important de distinguer la manière dont les anciens entendaient les textes qu'ils citent et ce que nous pouvons nous faire en faire nous. Bon, dites, on interrompt là. Moi j'ai été très content de cette séance. J'espère que c'est votre cas aussi, parce que j'ai l'intention, étant donné que je suis content, j'ai l'intention de continuer comme ça. Voilà. Donc, je continuerai la prochaine fois sur cette question philosophie. J'ai même pas abordé la question présocratique, qui va donc nous occuper, mais j'ai bientôt fini pour la philosophie. Mais je continuerai sur la notion de présocratique à proprement parler. Et puis, avant d'enchaîner, si vous voulez, sur le programme à proprement parler que je me propose pour le régulier. Alors dites, est-ce que ça vous sert si je mets ce livre en dépôt? Moi, j'en ai pas besoin. Je peux le mettre en dépôt spécial à la bibliothèque pour consultation ou quelque chose. Vous voulez ça? Et je peux faire la même chose de celui-là. Je vais voir avec la bibliothécaire, j'espère qu'elle est encore là. Donc je vais mettre ces deux-là en dépôt. Il est évident que si jamais vous voulez consulter, comme vous ne les emportez pas chez vous, vous les lisez sur place et vous ne les relayez pas.